Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence ce soir, pour cette dernière rencontre de l'année 2024. On a encore une projection pendant les vacances pour le jeune public, mais sinon c'est effectivement la dernière rencontre de l'année. Une année qui a été particulièrement importante puisque on a célébré les 80 ans de la libération du territoire. Et année pendant laquelle on a pu développer un certain nombre d'actions dans ce cadre-là pour commémorer ces 80 ans. Et les actions menées avec l'ONAC, VG et puis nous, donc le musée de la résistance et de la déportation, ont permis de mettre en lumière ce beau partenariat qui existe depuis quelques années, mais qui cette année vraiment a été très fort avec des actions menées ici au musée, mais aussi hors les murs, dans les communes de Haute-Garonne, et que Sonia Béron et Lyria Leroy vont vous présenter durant cette petite soirée. Donc je remercie Sonia. Donc je rappelle qu'elle est référente mémoire pour l'ONAC VG Région Occitanie, et Lyria Leroy, donc qui est ce soir intervenante et pas animatrice, voilà, en tant que responsable du pôle mémoire du musée de la résistance et de la déportation. Voilà, merci.
Pardon, j'ai un peu un syndrome maîtresse école, donc je me lève quand je parle. Déjà, je voulais vous remercier. Je vous avoue que moi, ce soir, j'étais persuadée qu'on aurait deux personnes dans l'Assemblée. Donc, quand on m'a dit 40, je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Donc, merci beaucoup à vous d'être présent ce soir. Comme vous l'a dit, alors évidemment, pardon, d'abord je remercie évidemment le musée départemental de la résistance et de la déportation pour cette belle invitation qui permet de mettre en exergue effectivement ce partenariat renforcé autour notamment de ce 80e, mais pas que, comme on va le voir. C'était aussi l'occasion pour vous de vous montrer ces partenariats, les fruits de ces partenariats, cette montée en puissance de ces partenariats qui s'expriment autour de ce 80e. Donc, très rapidement, pour vous présenter le sommaire, déjà, je vais vous expliquer ce que je fais dans cette galère en tant que ONAC VG, parce que on va faire un sondage tout à l'heure, mais je me demande qui connaît parmi vous l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Oui, je vois les... Bon, très bien, je reviendrai dessus. Et évidemment, Elérica reviendra également sur les missions du musée départemental et sur les fondements de ce partenariat. Après, donc, on verra comment... On se posera la question ensemble, hein, parce que l'idée, c'est aussi que ça ne se fasse pas de manière ascendante et que vous puissiez participer. C'est comment est-ce qu'on fait mémoire dans le cadre du 80e, 80 ans après, dans un contexte sociopolitique extrêmement particulier, comme vous vous en doutez. Étudier et valoriser 80 ans après, ça fait partie justement de nos missions conjointes. Impliquer la jeunesse, évidemment, ça semble un cliché, mais c'est d'autant plus vrai par les temps qui courent. Un petit focus également sur ce qu'on appelle les lieux de mémoire. Nous, à l'ONAC, on a la très belle expression « la mémoire de pierre ». Qui sont des vecteurs de transmission et des outils d'éducation citoyenne. Et très rapidement, si vous n'êtes pas trop fatigué, on vous présentera les opérations qu'on mènera conjointement pour l'année 2025. J'ai tout dit, Elérica ? Alors, le sondage, comme promis, qui connaît l'ONAC parmi vous ? Ah, je suis contente ! De non. D'accord. Alors, effectivement, ça fait partie de nos missions, mais vraiment en filigrane. En fait, pour vous présenter un petit peu l'office, merci Lérica, c'est une très vieille maison. Hein, on est né en 1916, et 1916, comme vous le savez, c'est pas un hasard, c'est qu'on est en pleine tourmente de Verdun. Voilà, la bataille de Verdun, pour mémoire, c'est 700 000 victimes. Voilà, blessés, morts, évidemment, allemands, français, tout confondu. Une véritable saignée, sans précédent, dans l'histoire de la nation française, et c'est aussi le moment où l'État va avoir un sursaut. L'État va avoir un sursaut et va se dire, qu'on doit finalement quelque chose à ces combattants qui ont versé leur sang pour le drapeau. On leur doit reconnaissance, on leur doit réparation. Et donc va être créé en 1916 ce qu'on a appelé l'Office des mutilés et des réformés de la guerre. Évidemment, le but, c'est, vous savez, de pouvoir retrouver tout simplement un emploi pour ces grandes victimes de guerre, hein, ces gueules cassées que vous connaissez tous, entre autres, dans une France qui est majoritairement, évidemment, rurale à l'époque, où les travaux des champs constituent quand même le principal gagne-pain de ces soldats. Et évidemment, les travaux de champs avec un bras en moins, une jambe en moins, eh ben, c'est compliqué. Voilà. 1917, dans la foulée, bah oui, évidemment, qui dit grand blessé de guerre, qui dit victime de guerre, dit également pupille de la nation, vous savez, les orphelins, et dit également veuve, veuve de guerre. Sachez que c'est des missions qui nous incombent toujours, hein, les pupilles de la nation. Voilà, c'est dans le giron de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Et puis, au fil du temps, au fil malheureusement des guerres que la France va traverser, eh bien, on va créer d'autres offices qui finalement vont fusionner et arriver à notre établissement actuel. Ça va, je ne suis pas trop brouillon, je suis claire. Ok, parfait, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. D'où la création de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Alors vous allez me dire, pourquoi le petit A ? Pour ceux qui suivent. Alors les petits A, c'est qu'à l'époque, pas si lointain, jusqu'en 2022, nous étions l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Sauf qu'il fallait qu'on intègre la cinquième génération de feu. Et que lorsqu'on parle d'anciens combattants, bah, tout de suite, on imagine les grabataires, voilà, les poilus, enfin. Sauf que non. Non, non. Nous, on s'occupe en fait des militaires qui sont radiés des cadres et on va prendre le relais. Sachez que c'est une spécificité aussi. Pardon, je m'étale, hein. Je vais faire vite, pardon. Sachez que c'est une spécificité de l'État français. Il n'existe nulle part ailleurs, ni en Angleterre, ni en Belgique, ni au Canada, des offices qui s'occupent comme ça des anciens militaires ou des blessés de guerre à qui on doit réparation, reconnaissance. Je veux bien que tu switches. Vous avez des questions à ce stade-là ? Non, ça va ? Nos trois missions. La mission, vous l'avez compris, première, c'était la reconnaissance et la réparation. Ça, c'est vraiment la matrice de l'office. Et puis la solidarité également. C'est-à-dire que lorsque nous avons des ressortissants à qui on a remis la carte du combattant, souvenez-vous, reconnaissance, ponctuellement, s'ils rencontrent des difficultés financières, nous pouvons aider. C'est bon à savoir. Si vous avez des personnes concernées dans votre entourage, sachez que l'office peut aider. Et puis, il y a une mission qui est venue beaucoup plus tard, si je ne me trompe pas, dans les années 90, qui est la mission qu'on appelle mémoire. Eh bien oui, parce que lorsque vous parlez de reconnaissance, ben, vous ne pouvez pas évoquer la reconnaissance de ces anciens combattants si vous ne valorisez pas un moment, si vous ne faites pas vivre leur mémoire. Et c'est comme ça qu'est née notre mission mémoire, dont je fais partie. On est une petite vingtaine de l'agent à couvrir le territoire français. C'est pas énorme, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et comme vous l'a dit Clémentine tout à l'heure, moi je suis référente mémoire pour l'ensemble de la région Occitanie. J'ai un collègue qui m'a rejoint il y a un an de ça, qui est basé à Montpellier. Moi je suis à Toulouse et je m'occupe plus spécifiquement de la façade Midi-Pyrénées. Voilà.
Autant dire que Sonia est très, très sollicitée. Nous, on s'occupe que de la Haute-Garonne. Ici, quand je vois le territoire qu'elle couvre, voilà.
On ne s'ennuie pas.
C'est pour ça aussi que vous verrez au cours de cette présentation un travail avec des départements limitrophes comme l'Ariège, comme le Gers.
Et l'Ariège aussi.
Alors, rapidement, le musée en quelques chiffres. Je reconnais beaucoup de visages parmi vous, donc je sais que vous venez au musée régulièrement. Les chiffres de l'année passée, puisque nous, on travaille toujours avec un an de décalage. Pour vous donner une petite idée de... Là, vous avez vu Clémentine au début de cette programmation, qui est responsable de la programmation culturelle. et quelques chiffres sur le nombre de visiteurs qu'a reçu ce musée. Cette année-là, on avait fait 4 expositions temporaires. Les chiffres de la médiation, parce que c'est le cœur du musée, hein, depuis sa création, c'est toujours se diriger vers les jeunes générations. Donc mes collègues de la médiation avec Clémentine organisent des ateliers avec différentes thématiques, notamment la mémoire du génocide des Juifs, la Shoah. Ils ont mis en place des valises, je suis toujours très impressionnée quand je les vois sortir leurs outils très créatifs pour évoquer l'engagement, les valeurs de la résistance à travers des parcours qu'ils doivent découvrir. C'est aussi une manière de les initier aux recherches historiques, à la découverte d'archives, des ateliers sur les discriminations, sur la propagande et la contre-propagande de la résistance, et puis un atelier plus artistique autour du mot de Lucie Aubrac, créer c'est résister c'est créer. Voilà. Et puis mes collègues du pôle collection, je détaille ces pôles parce que dans les actions qu'on va vous présenter après, c'est vraiment une mutualisation de toutes les ressources du musée sur ces actions 80e anniversaire. Et nos collègues du pôle collection ont enregistré 1840 objets et documents, œuvres au cours de l'année 2023, en ont inventorié, ce qui est un travail énorme. Nous avons parmi nous Madame Goldberger, qui fait partie de ces donateurs qui nous ont apporté énormes. C'est des centaines d'objets, de documents qu'il faut documenter, inventorier, recenser, enfin, et préserver surtout, et puis ensuite valoriser. Voilà, pour présenter le musée.
Donc, vous comprendrez bien, une fois toutes nos missions comme ça listé, qu'effectivement on se retrouve musée au NAC à la croisée de plusieurs partenariats et que finalement la solidité de nos missions de médiation vont reposer sur la mobilisation de tous ces partenaires que vous avez ici. Je pense qu'on peut passer.
Oui, on va avoir l'occasion d'en parler.
Donc, effectivement, c'est bien hein, de faire des partenariats. Encore faut-il s'entendre sur la manière de faire mémoire. De faire mémoire 80 ans après, à un moment assez charnière. Comme je vous l'ai expliqué, on est dans un climat tout à fait particulier. Moi, j'aime beaucoup la citation de l'historien Olivier Viorca qui nous dit ça. Dorénavant, les commémorations ne sont plus axées sur l'idée de victoire, mais bien sur l'idée de paix, de réconciliation et de construction européenne.
Donc, on l'avait reçu d'ailleurs, Olivier Viorca, ici, pour la présentation de son ouvrage.
Tout à fait, sauf que comment fait-on lorsqu'on doit commémorer dans un climat politico-social qui s'avère extrêmement complexe, notamment depuis 2 ans? Lorsque une guerre de haute intensité s'invite à nouveau sur le territoire européen, lorsque l'on voit la montée des extrémismes, l'augmentation des actes racistes et antisémites, la disparition des témoins directs aussi, tout ceci, évidemment, avec des budgets consacrés à la culture qui sont en chute libre. Je vais me permettre, parce que ce n'est pas un secret, de vous donner le budget 2024 de l'ONAC pour la région Occitanie. Nous étions à 27 000 euros. 27 000 euros, ça revient à peu près à 5 000 euros à peine par département dans le cadre des commémorations du 80e. Donc effectivement, ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire trouver des partenaires parce que l'Union fait la force, notamment financièrement. Et ça revient aussi à se creuser un petit peu la cervelle. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour commémorer avec 2 trombones, une agrafe et la peau d'un babybel brûlé, hein, c'est à peu près ça hein, dans l'idée. Voilà. Donc,
c'est la même chose pour le musée.
D'accord. Ceci dit, comme vous, ça nous oblige à nous réinventer, ça, il faut le dire, et ça nous oblige à aller chercher les partenariats, à mutualiser. Donc, voilà, un bien pour un mal. Comment on fait Donc, comme je vous le disais, on ouvre les partenariats et puis aussi on va aller chercher le public en dehors des structures. On va privilégier le hors le mur. Je sais, c'est pas révolutionnaire ce qu'on vous dit, mais n'empêche que c'est crucial dans ces temps particuliers. Donc, évidemment, on va aller chercher l'éducation nationale, travailler surtout avec les écoles primaires, les CM2. On ne parle pas de guerre non plus à des maternelles, c'est compliqué. On va aller chercher les collèges et les lycées, en fonction évidemment des programmes, donc c'est-à-dire plutôt pour les troisièmes pour les collèges, plutôt les terminales pour les lycées. Et puis, une nouveauté côté ONAC, je ne sais pas ce qu'il en est du conseil départemental, mais on est allé conventionner également avec le ministère de la Justice, notamment pour travailler avec la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ.
Pareil.
Impeccable. Notamment avec ce qu'on appelle les stages de citoyenneté, donc des jeunes qui ont fait des bêtises et le juge va les condamner à suivre une, deux, trois journées autour de la citoyenneté. Donc on intervient dans ce cadre-là. On intervient également en milieu carcéral, mais comme vous.
On travaille aussi avec les détenus de la prison de Seyss.
Oui.
On propose des ateliers du concours national de la résistance et de la déportation, ou du hors les murs, ou des visites du musée.
Et oui, c'est assez fondamental, vous comprendrez bien pourquoi, je ne reviens pas dessus. L'univers associatif, évidemment, qu'on va mobiliser également, les associations patriotiques et mémorielles, les associations culturelles aussi. Et puis, on va s'intéresser de plus en plus aux lieux de mémoire. Voilà, la mémoire de Pierre, dont je vous parlais tout à l'heure, des partenariats, notamment avec le camp du Récébédou de Portée-sur-Garonne, le mémorial du camp de Rivesaltes, je pense que vous le connaissez tous, et tout ce qui a trait, mais on y reviendra plus tard, hein, ça fait un peu liste à après vert, mais on vous montrera les exemples concrets après, la mémoire de Pierre. Les collectivités territoriales, évidemment, qui sont dépositaires la plupart du temps de ces mémoires de Pierre. Les conseils municipaux des jeunes énormément, de plus en plus, les offices de tourisme, les collectivités, je vous l'ai dit, et on va travailler également sur le lien armée-nation, le CSNJ, vous connaissez tous, non ? Ceux qui s'occupent du service national, voilà, exactement, et le SNU, Service National Universel. Donc on va travailler surtout sur ce 80e, sur les notions de citoyenneté et sur les notions de défense des valeurs de la République. Là, on a fait le choix de mettre en avant des grandes figures de la résistance, au travers notamment des collections du musée départemental de la résistance et de la déportation. On a fait le choix, comme je vous le disais, aussi assumé de faire du hors les murs, pour aller chercher justement les jeunes. Le musée, comme l'ONAC, est très attaché à la notion de territoire. On croit fermement que lorsque on ancre la mémoire au plus près des jeunes, eh ben, ça a une autre dimension, un autre impact, de se dire pour le jeune, ben oui, à cet endroit précis, là où j'évolue tous les jours, là où je passais hier devant une plaque qui ne me disait absolument rien, eh ben, il s'est passé ça. Et puis au travers des outils pédagogiques, notamment les mallettes dont parlait Erika pour le musée, nous également nous en développons, des serious games, des jeux de plateau. Ici, vous avez un jeu de plateau sur la citoyenneté, par exemple, qu'on déploie beaucoup.
Alors moi, j'ai une question. C'est quoi serious game?
Vous connaissez tous les escape games? Bon. Alors le but, c'est de créer un escape game, si vous voulez, mais version sérieuse. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur un personnage qui a réellement existé. Je pense par exemple à la mallette qu'on a fait sur Joséphine Baker. Joséphine Baker, elle a une vie tellement incroyable, avec tellement de tiroirs, qu'en fait on a réussi à en faire ce qu'on a appelé un serious game. Donc en fait, ça se présente sous la forme d'une mallette, d'une valise en fait. Et on explique aux jeunes, voilà, il y a un vrai scénario, qu'on a repêché cette valise au large de la Sardaigne, où l'avion de Joséphine Baker s'est écrasé, que cette valise appartenait à Joséphine Baker, parce qu'il y a les initiales de Joséphine Baker, on a des effets de Joséphine Baker, un boa, une trousse à maquillage, que sais-je, voilà. Et il y a surtout un écrin qui est verrouillé. Et dans cet écrin se trouve quelque chose qu'on imagine qui était destiné à la base au général de Gaulle. C'est un message et il faut absolument qu'on arrive à décrypter ce message. Donc à ce stade-là, les jeunes nous disent « Mais pourquoi est-ce qu'on ne casse pas le verrou ?» Ben, on ne le casse pas parce que figurez-vous que cet avion, le problème, c'est qu'il était dans les eaux italiennes. Donc voilà, le ministre italien réclame la propriété de cette mallette. Puis Josephine Baker, eh ben, elle était d'origine des États-Unis. Donc le président américain là réclame aussi cette valise. Et donc voilà, le président Macron doit absolument avoir le contenu de cette valise avant que Donald Trump n'atterrisse dans une heure et se présente à l'Élysée. Hop, vous avez une heure. Voilà. Et à partir de là, donc, le jeu se déroule par paliers. Les élèves vont travailler au travers d'archives pour retracer la vie de Josephine Baker. Chaque palier correspond à une étape de la vie de Josephine Baker en tant qu'artiste, en tant que muse, en tant que résistante et en tant que militante, évidemment, des droits de l'homme. J'ai répondu à vos questions ? Ok. On prête cette valise, hein, sachez-le. Mais on prête la médiatrice avec aussi, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, je vous le dis tout de suite.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Alors, une deuxième mission sur laquelle on s'arrête, mais là, ce sera plus toi que je laisserai parler, Elérica, c'est que, évidemment, la transmission de la mémoire ne peut se faire si on n'a pas étudié. Et Dieu sait qu'il reste des mystères sur la Seconde Guerre mondiale qu'on n'a pas encore levé. Je vais te laisser prendre la parole au pied levé.
Oui, rapidement. Là, j'ai mis une photographie prise. Alors, donc, dans les actions qu'on va vous présenter après. Donc, le choix pour le 80e anniversaire, c'était aussi d'aller vers les écoles qui ne viennent pas au musée. Donc, des écoles qui sont assez éloignées de Toulouse. Là, on est à Buzet-sur-Tarn. C'est Buzet-sur-Tarn, c'est la commune qui a connu le plus grand nombre de personnes assassinées pendant la guerre. 70 personnes ont trouvé la mort à Buzet-sur-Tarn. Et donc, dans ce rendez-vous préalable avec la mairie, on a échangé. Et là, l'adjointe au maire à la culture nous sort une boîte en buvant le café, avant de commencer le projet. Et elle nous montre des objets qui sont conservés sur les étagères de la mairie de Buzet-sur-Tarn. Et Buzet-sur-Tarn, en fait, c'est un crime qui a laissé beaucoup d'incertitudes. Donc, comme je vous le disais, en fait, ça a commencé début juillet 1944, parce que les Allemands, enfin, le KDS, ce qu'on appelle généralement la Gestapo, étaient certains qu'il y avait des maquisards à Buzet-sur-Tarn. Donc, elle envoie... La police allemande envoie enquêter l'un de ses agents, un Italien, et cette enquête va amener à l'exécution du maire de Buzet-sur-Tarn le 6 juillet 1944, de son fils, d'un couple, de toutes les personnes que l'Italien a rencontrées. Et puis, comme ça, tout au long de l'été, il va y avoir des assassinats, des crimes de guerre. Hein, ça a été jugé comme ça par la justice militaire en 1953, quand à Bordeaux a eu lieu le procès de la Gestapo toulousaine, de la région toulousaine, du KDS. Et puis, surtout, le 17 août 1944, à deux jours de la libération, le KDS qui détruit les preuves de ces exactions... va également détruire les documents. On n'a pas d'archives, hein. On a très très peu d'archives conservées des services de police de sûreté allemande, quelques éléments qui ont été sortis des flammes, mais ils vont détruire aussi les hommes. Et donc ils sortent de la prison Saint-Michel, qui était une prison régionale, et qui était séparée en deux, un quartier français et un quartier allemand. Donc là on est côté allemand, et ils sortent 54 hommes, et qu'ils les conduisent discrètement à Buzet-sur-Tarn, là, au même endroit où le 6 juillet, ils avaient exécuté un garde forestier. Et sur ces 54 personnes, là, ce sont les restes trouvés dans ce charnier, parce que, en fait, les Allemands, enfin les nazis, vont faire en sorte qu'il ne reste rien. Et quand on regarde les photos prises par la gendarmerie le 20 août, on ne voit même pas les crânes, on ne voit rien. Tout a été brûlé pendant 24 heures, des litres et des litres d'essence, alors qu'on est en pleine pénurie d'essence, que les Allemands en retrait vont manquer d'essence, c'est vraiment paradoxal. Et donc ce crime-là, ben en fait, 35 victimes seulement ont été identifiées jusqu'aux années 2015-2016. Avec l'ouverture des archives depuis 2015 et l'accès aux archives qui sont classées secret défense ou secret, on arrive maintenant à trouver des noms, et notamment en consultant les archives de la justice militaire qui sont conservées à Leblanc dans l'Indre et qui nous permettent de mettre des noms. Donc en fait, en faisant tout ce travail, et là, ces petits bijoux qu'on nous montre, on n'a pas pu les identifier, ce sont des bijoux... un mois après être allée à Buzet-sur-Tarn, moi je suis allée faire une conférence à Tarbes, et là je découvre en fait qu'un nouveau nom, grâce à l'un des bijoux d'un résistant qui venait des Basses-Pyrénées, comme on disait à l'époque, hein, les Pays Basques. Mais vous dire que c'est vraiment incroyable, cette façon de redécouvrir des documents ou des archives ou des objets qui nous aident dans ce travail d'enquête. Et Buzet-sur-Tarn, aujourd'hui, il reste encore 14 noms, 14 personnes non identifiées. Le chiffre de 54, il tient au médecin légiste qui est intervenu le 20 août à Buzet-sur-Tarn aux côtés du maire, Monsieur Pêche, pour identifier les corps. Et nous, au musée, on conserve un fonds exceptionnel sur Buzet-sur-Tarn, transmis par Pilar Ponzan, qui est la sœur de Francisco Ponzan-Vidal, et qui est un travail d'une vie. Francisco Ponzan-Vidal, c'est le plus grand passeur des Pyrénées. C'est un anarchiste, un instituteur espagnol, un républicain espagnol, qui va mettre sur pied dès 1940. Je m'égare, hein. Tu vois, là, ça y est, je suis partie. Voilà. Et il va se faire dénoncer par l'un de ses compatriotes anarchistes. La police française va l'arrêter. Il va, avec les services secrets, être libéré. Et puis, il va de nouveau être arrêté. Il reste en prison de 1943 au 17 août 1944. Et Pilar Ponzan, qui était au camp de Gurs, quand elle est libérée, elle court, elle se précipite au moment de la libération de Toulouse. Elle espère revoir son frère. Il n'est pas là. Personne ne sait lui dire où il est. Et personne ne sait dire ce que sont advenues ces 50 personnes. Donc il y a une mythologie autour des crimes commis à Buzet-sur-Tarn qu'elle restitue dans un cahier que nous conservons dans les collections. Pendant 30 ans, elle a noté toutes ses recherches, toute sa quête, la quête de son frère. On lui a raconté n'importe quoi, des rumeurs, des témoins qui s'inventaient. Voilà. Et donc c'était très émouvant de voir ces petits objets. Alors qu'on allait faire un atelier à Buzet-sur-Tarn pour préparer les élèves au 80e anniversaire de ce crime-là en août. Alors cette cérémonie avait lieu en juillet et c'est tombé précisément le 7 juillet, jour d'élection, mais ça a été maintenu et c'était très, très émouvant. D'ailleurs, à cette occasion, on a fait un partenariat avec le Mémorial démocratique de Catalogne pour dévoiler une plaque. On a travaillé avec Josep Calvé, l'historien spécialiste des filières d'évasion. Et on a rendu hommage à une famille, la famille Porta, qui avait été assassinée et qui était restée dans l'anonymat. Une plaque a été dévoilée. Voilà, je m'égare, je suis très longue, je m'excuse.
Voilà, ça retrace exactement. Non, mais c'est très bien d'avoir illustré effectivement les préoccupations qui sont les nôtres, aussi bien côté musée que côté ONAC. Moi, c'est quasiment tous les jours que j'ai un mail de descendants de résistants qui me disent mon grand-père s'est éteint, il n'a jamais parlé, je ne sais pas ce qu'il a fait, je sais qu'il a été résistant. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, et vous êtes sollicité aussi, j'imagine, aussi souvent. Donc voilà. Et c'est très intéressant pour nous en réalité, parce que reconstituer des parcours individuels complexes, ça nous permet aussi d'aller plus loin sur la résistance. Nous avons, nous, côté ministère des Armées, des archives extrêmement intéressantes au service historique de la défense, qu'il s'agisse de Vincennes pour ce qu'on appelle les homologations des faits de résistance. Tout comme à Caen, où à Caen, ce sont les archives des victimes des conflits contemporains qui sont conservées là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des recherches à faire sur, sur des personnes de votre famille, j'insiste, de votre famille. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter côté ONAC.
Ou d'utiliser Mémoire des Hommes, déjà, c'est...
Oui, tout à fait.
C'est vrai que c'est aujourd'hui, il y a encore 10 ans de ça, il n'y avait pas ces ressources-là. Aujourd'hui, le site Mémoire des Hommes, vous tapez le nom, le prénom de la personne que vous recherchez, et c'est déjà un début de piste. De même Carol Zone, ça c'est vrai que c'est aussi accessible. Tu me dis si j'empiète.
Non, je t'en prie, mais vas-y.
Les archives de Bad Carol Zone, c'est vraiment une source exceptionnelle sur toutes les victimes des nazis. Que ce soit le travailleur forcé envoyé au STO, le prisonnier de guerre, le résistant déporté, la personne persécutée. Vraiment, ils font un travail de numérisation exceptionnel. Et puis, si on ne trouve pas en ligne, ils ont des personnes pour nous répondre. Oui, et toi, puis, tu travailles, l'ONAC travaille également
Justement, essayer de retrouver les descendants, parce que le but, c'est que les effets qui ont été récupérés des déportés puissent revenir aux descendants. Donc, il faut identifier les déportés, mais surtout, il faut identifier les descendants. Donc oui, j'ai été sollicitée plusieurs fois par une enquêtrice qui m'a demandé si voilà, vous savez si éventuellement je pouvais l'aider, notamment je pense à une enquête qu'elle menait autour d'un résistant et d'une résistante, donc ils étaient mari et épouse, et il a fallu retrouver la tombe familiale au cimetière Terre-Cabade. Donc évidemment, elle était du côté de Cognac, c'est loin, donc c'est moi qui y suis allée, voilà, mais on a réussi à identifier, c'était une happy end. Sur le cas des cold cases, je me permets juste, évidemment je ne vous souhaite pas de retrouver un jour un cadavre au fond du jardin, mais est-ce que vous savez, question, si jamais vous retrouvez effectivement une personne décédée depuis longtemps, mais qui possède des effets qu'il identifie comme un militaire, c'est l'ONAC qu'il faut appeler. La gendarmerie, bien sûr, quand même. Mais l'ONAC également. Parce que nous avons des personnes spécialisées dans l'anthropologie qui s'efforcent justement d'identifier... alors c'est souvent des poilus, hein. Surtout des poilus que nous avons, qui s'efforcent de les identifier et surtout de retrouver les descendants des familles. Et on est toujours, vous savez, dans la quête de reconnaissance aussi. Hein. Le but, c'est de rendre les honneurs à ce poilu et de le rendre à la famille, ou alors de l'inhumer en fonction de la volonté de la famille dans ce qu'on appelle les nécropoles nationales, que l'ONAC gère également. Pardon, j'ai fait... Je me permets.
C'est important.
Non,
mais c'est important, même là, sur la Haute-Garonne, il y a encore des corps dans certains jardins, même à côté, à la Côte Pavée, ou à Brax, ou à l'Age. Il y a encore des... les dons privés, juste en dire un mot, ça paraît insignifiant, mais en fait, nous, ce que les personnes, les familles nous apportent au musée, dans les collections, on trouve des pépites qu'on ne trouverait pas ni dans les archives publiques, ni dans... Enfin, voilà, et ça vient nous apporter des éléments. Et j'ai en tête, par exemple, moi qui travaille beaucoup sur le réseau Morange, deux dons qui sont arrivés ici et qui sont des pièces exceptionnelles. Le réseau Morange, j'y reviendrai après pour Brax, on a fait une action là-bas. Brax, le château de Brax, c'est le repère du réseau Morange en 1943. Comme ça, par hasard, dans un grenier, une famille nous amène un jour des cartons. Et en fait, ce sont des objets qui étaient restés cachés depuis la guerre, dans lesquels il y avait des documents nazis, des documents personnels d'un service SS qui était à l'hôtel de l'Ours Blanc à Toulouse, qui va être neutralisé par le réseau Morange le 2 janvier 1944. Le réseau Morange, pour faire vite, est spécialisé dans la neutralisation des agents ennemis. Il est dirigé par un adjudant chef des services spéciaux du deuxième bureau, comme on disait à l'époque. Et donc, ils vont monter une opération pour intercepter le déménagement de ce service de la Gestapo qui était spécialisé dans la traque des dépôts clandestins dans tout ce qui pouvait enrichir le Reich. Et donc là, arrive dans ce don des documents vraiment incroyables. On se demande comment c'est arrivé là. Et ça vient compléter toutes ces archives publiques. Voilà, je citerai aussi un exemple qui a été très important pour le musée. Nous est arrivé un jour par un coup de téléphone d'Emmaüs qui vidait une maison, qui avait trouvé dans le grenier l'ensemble des archives de la commission d'enquête des crimes de guerre ennemis, qui aujourd'hui, c'est un fonds colossal de tous les rapports de gendarmerie, police, judiciaire, qui est aujourd'hui accessible aux archives départementales sous la cote 80-89. Si vous cherchez sur votre commune, il y a tous les éléments relatifs à des crimes de guerre ennemis. Donc c'est très important, les dons privés, et ce que nous confient les familles.
Peut-être juste un petit mot aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais évidemment, et même lorsqu'il s'agit d'enfants, surtout peut-être même lorsqu'il s'agit d'enfants, on doit quand même une certaine rigueur scientifique lorsqu'on évoque les guerres. Et ceci, ça passe évidemment par la recherche scientifique, historique. Moi, je ne suis pas historienne, clairement. En revanche, lorsque je fais des ateliers de médiation, il va sans dire que je me documente et que je m'appuie sur les données universitaires pour les recherches les plus récentes, pour ne pas raconter de bêtises, sachant que la recherche en matière de Seconde Guerre mondiale, ça va très vite.
Et puis que ça n'intéresse plus trop les universités aussi. Qu'est-ce que c'est après ? Valoriser et diffuser auprès du grand public, oui. Bah, l'exemple du camp du Récébédou a porté sur Garonne, près du carrefour, c'est ce qu'on dit souvent aux élèves, il y avait un camp d'internement très méconnu par les gens qui fréquentent ce carrefour, très méconnu même parfois par les habitants du Récébédou eux-mêmes. Mais à cet emplacement, la mairie de Portée-sur-Garonne va... D'ailleurs, il y a Pierre Petremann, qui est historien, qui travaille sur ce projet dans la salle. On travaille autour d'un chemin de mémoire, parce que depuis Portée, en fait, ont été rassemblés d'abord les républicains espagnols, et puis ensuite les juifs qui seront déportés. On évoque souvent la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942 à Paris. La grande rafle ici, c'est pas le 80e, mais la grande rafle, c'est la rafle du 26 août 1942. Et beaucoup de personnes ont été conduites au Récébédou et au camp de Noé. Au camp de Noé, il reste rien, mis à part un mémorial inauguré en 2021 et le cimetière. Surtout qui est très, très intéressant. Mais à Portée, il y a le musée de la mémoire qui est fort méconnu. Et c'est aussi travailler avec les partenaires comme ça à l'élaboration d'un parcours mémoriel pour reconstituer l'histoire de ce camp et de toutes ces personnes persécutées par le régime de Vichy à Portée. Ça, c'est un exemple.
Oui, et puis un bel exemple d'une initiative municipale, parce que c'est un gros projet et qu'il faut vraiment saluer en termes de mémoire.
Le circuit devrait être inauguré en 2025, octobre 2020. Enfin,
oui, par là, quoi. On ne va pas trop s'avancer.
voilà, c'est un beau projet, et c'est vrai que souvent ce musée de la mémoire, il n'est pas connu, et même la présence de ce camp à proximité de Toulouse et de ses satellites ne sont pas connus.
Je disais que je l'ai découvert, j'avais voulu aller le voir, et le jour où je suis allé, j'ai eu une visite guidée pour moi tout seul. C'était il y a 2 ans.
Ah ouais.
C'était en plus au moment où il y avait des conférences sur les résistantes. Il y avait un partenariat, je crois, avec le musée ici. Et alors c'est vrai qu'il mérite d'être connu. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est vrai qu'il faudrait comment faire pour que puisse y avoir plus de monde dans les musées sur la résistance. Voilà, question que je posais.
Ben merci. Non, mais c'est la volonté de la mairie de Portée-sur-Garonne et également ce parcours pour aller au deux, parce que le musée est dans l'infirmerie, je dis pas de bêtises, dans l'ancienne infirmerie du camp. Non, mais tout à fait. Il mérite d'être connu.
Sachez qu'il y a une conférence qui s'est tenue aux archives départementales à l'initiative de nos amis des archives départementales. Une conférence musée AD31 au NAC pour expliquer justement comment à travers les archives on peut essayer de reconstituer parfois les parcours de résistants.
Même audio. Une mémoire sonore.
Les actions. Comment impliquer les jeunes dans les diverses commémorations? Alors là, c'est une action que tu as organisée à la cartoucherie.
Oui.
Donc, c'est une photo où les enfants se réunissent autour du drapeau qui date de 1945 en partenariat avec les anciens salariés de la cartoucherie.
Oui, là, on en revient à la question cruciale des partenariats. Hein. Donc, nous, à l'ONAC, on a été saisis par les anciens de la cartoucherie. Évidemment, ça nous intéresse en tant que ministère des Armées, hein, à plusieurs titres, vous vous en doutez, mais notamment autour de résistants de la cartoucherie, extrêmement méconnus. En fait, l'idée de départ, vous connaissez la cartoucherie, les travaux qui ont été faits très très récemment sur le quartier de la cartoucherie. Donc voilà, la plupart des hangars sont tombés. Et au milieu des hangars qui sont tombés, ces ballots, le monument aux morts aussi de la cartoucherie a été détruit. Les seuls à s'en être émus, c'est l'association de la cartoucherie qui sont venus nous voir en nous disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire. Eux, ils avaient des archives, donc on savait à quoi ressemblait le monument et surtout, on connaissait les noms qui étaient affichés sur les monuments. Là, c'était clairement l'agence immobilière hein, qui avait fait la bêtise. La mairie de Toulouse en était émue aussi, donc il y a eu un très beau partenariat pour refaire le monument. Voilà. Et dans le cadre de l'inauguration de ce monument, qui en plus cochait les cases de tomber sur le 80e, l'association de la cartoucherie est venue me demander ce qu'on pouvait faire avec les élèves de la cartoucherie, qui l'école se trouve juste en face du monument. Hein. Donc comment est-ce qu'on les implique? Comment est-ce qu'on fait mémoire? Et là, je suis allée chercher le Musée de la Résistance pour qu'on mène justement une opération conjointe. Donc là, c'était vraiment un trinôme qui a permis de briefer ses élèves et d'avoir une très belle cérémonie. On reviendra peut-être sur les actions qu'on a menées.
Ouais. Non, puis saluer aussi, là pour le coup, l'association des anciens de la cartoucherie est heureuse d'avoir trouvé quelqu'un comme toi pour les aider. Parce qu'il y a un projet quand même, si, il faut le dire, il y a un projet de lieu de mémoire. Tu les aides dans leurs recherches. Donc les interventions conjointes dans les écoles, on va y revenir. Donc le côté valeur de la République et citoyenneté, c'est quoi une cérémonie avec toi? Je te laisse. Et nous, c'est quelque chose qui a été initié à l'époque de notre ancien directeur, Antoine Grande, permettre de sortir les objets de la collection hors du musée.
Alors, comment se déroulent concrètement nos activités avec les jeunes, sachant que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait déployer aussi bien avec les CM2, qu'aussi bien avec les 3e, qu'aussi bien avec les terminales. Nos ateliers s'y prêtent complètement. Côté ONAC, nous avons créé une mallette qui s'appelle « Explique-moi une cérémonie ». Ah oui, les cérémonies et la jeunesse, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, disons-le. Comment est-ce que on incite les jeunes à assister à une cérémonie? Eh bien, tout d'abord, vous savez, j'avais un directeur à l'époque qui employait un mot magique. Il disait, de toute façon, les jeunes, si on les aligne à une cérémonie comme des cierges de Pâques, eh bien, ça ne fonctionne pas. Eh bien, oui, il avait raison, effectivement. Le but, c'est d'expliquer, de rendre d'abord acteurs les jeunes, le plus possible, par des lectures de textes, par des chants, par des dépôts de gerbes conjoints avec les élus. Et c'est surtout de leur apprendre à lire et à décrypter une cérémonie. Et j'y tiens à lire et à décrypter toutes les valeurs républicaines qui sont véhiculées lors d'une cérémonie. Le drapeau tricolore, pourquoi un drapeau tricolore? Pourquoi est-ce que c'est notre emblème? Pourquoi les trois couleurs? Qui sait? Donc, prochaine au programme en 2025, explique-moi une cérémonie, vous êtes tous invités.
Ben, moi, j'ai appris plein de trucs hein, pendant tes ateliers.
Oui, personne ne le sait. Drapeau tricolore, et pourtant. Si ? Ah ! Le rôle des politiques. À quoi ça sert un préfet aujourd'hui ? Pourquoi le Sénat ? Pourquoi l'Assemblée générale ? À quoi ça sert ? Pourquoi la séparation des pouvoirs ? Et comment on reconnaît un maire ? Comment on reconnaît un sénateur ? Tout ça, voilà, ça va être expliqué. Et les élèves vont jouer le rôle deux personnes pendant la cérémonie, en fait. Donc, on va avoir un maire, on va avoir un sénateur, on va avoir un préfet, une préfète. On va avoir des porte-drapeaux et tout ça, voilà, va leur permettre vraiment de se mettre en situation. L'objet, le point d'orgue final, étant évidemment qu'ils assistent à une cérémonie commémorative à la fin.
Le musée, donc, parallèlement, en fait, en général, soit on séparait la classe en deux. Donc, avec mes collègues Fanny de la médiation et ma collègue Émilie de la collection, on a mis en place deux vitrines d'objets. Avec comme sujet, on a essayé de prendre quelque chose d'intelligible pour les CM2, donc c'est pas un cours sur la résistance, c'est une découverte, qu'est-ce qu'un maquis. Et donc on a pris le sujet la vie au maquis pour montrer à partir des objets de la collection qu'on avait que le maquis c'est pas seulement les mitraillettes Sten. On en a pris une parce que les élèves c'est ce qu'ils voulaient voir en premier, mais après on a laissé de côté des armes et dire les maquis, ok, c'est les armes, mais pourquoi ils sont là et contre quoi ils se battent. Et après, essayer de, dans chaque endroit qui avait une mémoire de pierre, puisque c'était quand même les sites qu'on avait privilégiés, revenir à l'histoire locale. Essayer aussi de casser les codes, parce que sur les maquis, on a fait ici une journée consacrée aux maquis avec la Fondation de la Résistance. Et c'est vrai qu'évoquer les femmes dans le cadre des maquis, c'est compliqué, mais nous, on a un exemple. Et donc, sur la photo à gauche, on leur présentait cette femme-là, qui est l'une des rares femmes, Edith Etin, pseudonyme Catherine Varlin, qui a dirigé un maquis de 250 hommes dans la Meuse, leur montrer aussi que les femmes ont eu un rôle, expliquer le rôle des femmes dans cet univers extrêmement masculin, du maquis en termes de logistique, entraide, renseignement, voilà, et essayer de casser un peu le mythe de l'homme avec sa mitraillette, tel qu'on peut le présenter d'ailleurs en exposition permanente, une affiche réalisée en 1944 d'un soldat FFI, voilà, essayer de faire passer quelques messages, beaucoup d'interactions avec les élèves, c'est des actions qui ont vraiment super bien marché. Parce que voilà, ils étaient déjà les enseignants comme les élèves heureux de voir une partie du musée venir dans leur école. Donc quatre sites sur lesquels, enfin quatre actions où on a beaucoup accentué. Donc ces ateliers maquis, on l'a fait à Bugey-sur-Tarn, on l'a fait dans la petite commune de Séguède. Toute petite commune à côté du maquis de Saint-Lys, et puis on l'a fait à Marsoulas, on va y revenir après. On a fait une action l'an dernier, en 2023, qui a couru jusqu'en 2024, sur la plus vaste opération de répression menée par le KDS contre la résistance, qu'on appelle l'opération de minuit, qui couvre l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, simultanément, dans la nuit du 13 au 14 décembre 1943, la police allemande, renforcée par la FED, gendarmerie, par les unités de la Wehrmacht, va procéder à l'interpellation des chefs des mouvements unis de la résistance. À Toulouse, ça commence par François Verdier, mais ça s'est reproduit dans cette même nuit, dans le Gers, contre le maquis de Pont-Saint-Père, en Ariège, contre... Et alors, ces résistants arrêtés ont tous un lien avec l'éducation nationale et le nom de leurs établissements. Et puis, une classe de Gourdan-Polignan, des terminales, ont travaillé sur la figure de Gabriel Gess, qui est un résistant méconnu, mais qui était pourtant le responsable de l'armée secrète. Voilà, donc ces actions-là, on y reviendra après, vont mettre en lumière les parcours, autant des jeunes du maquis de Pont-Saint-Père, qui vont être raflés, tous déportés, enfin voilà. Et l'opération de minuit, c'est 110 arrestations. Donc c'était une belle occasion, entre l'ONAC et le musée, de faire des ateliers ici, des parcours hors les murs. Et puis ensuite, ces projets ont été... les enseignants se sont... Nous avons
un professeur dans la salle.
Un témoin. Se sont emparés de ce projet-là. Et c'était vraiment une belle réussite. On y reviendra après.
Oui. Alors juste un petit aparté, parce que moi je tiens vraiment à saluer, et c'est pas parce que nous en avons un dans la classe, mais dans la salle, mais je tiens vraiment à saluer l'implication des professeurs. C'est pas simple de réussir à caser aux chausse-pieds dans un programme déjà extrêmement chargé, des actions telles qu'on les propose. C'est pas simple d'affréter des bus, c'est pas simple d'essayer de trouver dans l'emploi du temps de s'entendre avec des collègues pour avoir parce que quand on part depuis Pardaillan, Hoche ou depuis le fin fond du Comminges pour aller au musée, c'est à la journée. Hein. Donc c'est pas simple, c'est compliqué et on a beaucoup de chance d'avoir des professeurs qui nous suivent là-dessus. Donc je voulais leur rendre hommage.
Tout à fait. Marsoulas.
Alors tout le monde connaît Marsoulas, je pense. Voilà. Non ? Non ? Ah, d'accord. Très bien. Marsoulas, je te laisse.
Alors rapidement, Marsoulas, c'est une toute petite commune d'une centaine d'habitants qui est dans le Comminges, dans la vallée du Salat, à la limite de l'Ariège, à 3 km de l'Ariège, qui se trouve sur la route donc de Betchat, où il y avait un maquis FTPS, franc-tireur et partisan français, très actif et peut-être imprudent, enfin oui, certainement imprudent, qui a enlevé des soldats allemands, parce qu'en fait, dans ce secteur-là se trouve la régie autonome des pétroles. On oublie souvent que dans le Comminges, la richesse, c'était le pétrole, les Allemands en avaient bien conscience, le faisaient surveiller, le maquis de Betchat va enlever des officiers nazis qui travaillent à la régie autonome du pétrole, ce qui va susciter une colère des autorités ici du KDS, de la Gestapo, qui va donc, la division SS d'Asreich, cette division SS qui était en repos dans le sud-ouest, qui va se signaler par les massacres, bon, le plus connu étant au Radour-sur-Glane, Tulle, etc., est en repos dans le sud-ouest. Quatre compagnies sont cantonnées autour du Vernet, en Haute-Garonne, Vénerque, Crépiat, etc. Et donc la Gestapo va se servir de cette division pour commettre des massacres contre les terroristes, mais aussi pour dissuader la population civile de soutenir ces terroristes. Et le 10 juin 1944, alors qu'une partie de la division est remontée vers la Normandie, et donc commet les massacres que j'ai cités, ces quatre compagnies qui sont stationnées ici, elles vont mener une opération de répression contre les maquis des Pyrénées. Et Marsoulas, qui se trouve sur la route de Betchat, va souffrir de cette répression. Deux maquisards étaient aux avant-postes sur l'église que vous apercevez derrière moi. Et donc, à l'approche de la colonne allemande, va lancer une grenade sur cette... la voiture de tête, ce qui va déclencher les foudres de l'officier SS, qui va ordonner de tuer tous les habitants. Donc ce jour-là, beaucoup d'habitants étaient absents à leur travail. Il est très tôt, on est un samedi matin, ils sont partis à la ville. Se trouvaient dans cette commune des réfugiés toulousains qui avaient fui les possibilités de bombardement et les bombardements qui avaient eu lieu en mai à Toulouse. Et donc 27 habitants vont être massacrés en l'espace d'une demi-heure. Et ensuite, donc ça va laisser, ces exactions vont prévenir les habitants de Betchat, le maquis de Betchat, qui vont avoir le temps de se cacher. Voilà, c'est un deuil en fait qui est resté très profondément marqué dans à Marsoulas. Si à Toulouse vous n'avez même pas une rue qui honore la mémoire de Marsoulas, vous avez une rue pour Rimont, vous avez une rue pour Radour-sur-Glane, rien sur Marsoulas. Longtemps le Comminges et en particulier Marsoulas n'a pas été traité ici à Toulouse, et même c'est un travail laborieux qu'on fait, et c'est vrai que c'est pourtant la cérémonie commémorative qui réunit le plus de monde en termes de porte-drapeau, de public. C'est la plus grosse cérémonie de Haute-Garonne, et nous on a été sensibilisés par le maire de Marsoulas, le maire actuel, parce que l'école, les élèves de CM2, vous savez, c'est ces classes séparées entre communes, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. L'ancien maire de Marsoulas, Jean-Pierre Blanc, a fait un petit musée à Marsoulas qui rappelle ce qui s'est passé dans ce village. Et les élèves n'étaient jamais allés visiter, ils n'étaient même pas au courant de ce qui se passait dans leur propre village. Voilà. Donc on a un peu répondu aussi à cette demande-là en montant...
Oui, tout à fait. Et puis, il y avait une autre problématique qui se posait à Marsoulas. On est sur une toute petite commune, hein, comme on vous l'a dit. Une petite commune qui a un monument assez quand même conséquent et qui s'explique, hein, qui a été érigé après-guerre. Et aussi, là on ne le voit pas, mais une tombe collective où quasiment toutes les victimes ont été enterrées dans cette espèce de fosse. Et entretenir entretenir ce monument, entretenir ces tombes, pour la mairie, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Tous les budgets passent quasiment pour maintenir l'école. Donc, l'ONAC a été sollicité aussi dans ce cadre-là. En tant qu'opérateur de l'État, en tant que ministère des Armées, que pouvez-vous faire pour ces sépultures ? Donc, nous avons remis à neuf le monument. Monsieur le préfet, lors de la cérémonie du 80e qui s'est tenue à Marsoulas, a annoncé qu'il allait rénover sur des crédits préfecture les tombes, ce qui a été fait. L'inauguration aura lieu en janvier. Et quitte à mettre un point d'orgue sur cet événement, autant y impliquer la jeunesse. Je me suis tournée vers le lycée professionnel agricole de Saint-Gaudens, l'objectif étant de faire réfléchir aux jeunes à la symbolique des végétaux. Donc le but, c'était vraiment de créer des plantations. Alors ils ont fait le choix du bleu, blanc, rouge. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de plantes à cette période-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les pauvres. Mais je peux vous assurer que ça donnait un coup de peps sur ce square. Et pour les jeunes, c'était extrêmement valorisant. Je pense qu'on peut voir les photos après, peut-être, de... Alors, ouais, ça, c'est le deuxième acte avec les écoles primaires, où là, on a fait venir un graffeur. Le but étant de... Et Erika vous l'a dit, hein, c'était difficile de sensibiliser les élèves. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme disait ma grand-mère. Donc, il fallait vraiment qu'on arrive à créer un esprit, une appétence pour les commémorations. Et on est passé par un graffeur qui est venu. Donc l'atelier se faisait autour des symboles de la paix. Et les élèves sont repartis chacun avec leur petit pochoir et les productions ont été exposées dans le musée de Marsoulas. Voilà. Et le point d'orgue, évidemment, ça a été cette grosse cérémonie du 80e. Vous voyez, moi j'adore cette photo parce qu'on est vraiment sur l'essence même de ce qu'on essaie de faire. Les jeunes que vous voyez derrière, ce sont des jeunes du lycée agricole de Saint-Gaudens. Ici, vous avez deux anciens combattants, dont Jean Baquet, ancien résistant, notre doyen, je pense, de la résistance en Haute-Garonne. Bruno à côté, un ancien garde d'Algérie. Et ces deux jeunes derrière qui ont participé de manière active à la cérémonie et qui avaient aussi en charge d'aider les anciens aussi. Donc on est vraiment dans l'esprit qu'on essayait d'insuffler. Là, vous les retrouvez aussi parce qu'on avait fait venir une chanteuse lyrique qui a suivi ces jeunes pour qu'ils puissent entonner notamment la Marseillaise. Et vous les voyez également aider monsieur le préfet avec le dépôt de gerbes. Donc vraiment une illustration concrète de « Explique-moi une cérémonie version mallette » à « Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain ?»
Une autre action pour la Journée nationale de la résistance.
Oui, mais là, on va laisser parler Amaury, peut-être, le professeur. Tu veux bien, Amaury ? Allez, super.
Merci, bonsoir. Alors moi, je représente les Comingeois qui étaient à droite donc sur la photo. Donc ce sont cinq lycéens, même si il y en avait deux qui les avaient rejoints pour l'occasion. Donc là, c'était le 27 mai dernier, pour la restitution à la préfecture de Toulouse de leur travail sur l'opération de minuit. Donc c'était eux qui avaient travaillé sur Gabriel Gess, le héros local de Saint-Gaudens, donc capitaine du réseau de résistance, et qui organisait un réseau de passeurs, notamment pour basculer en Espagne. Et c'est devenu un peu le héros de ces jeunes. C'est vrai que c'était très, très touchant pendant toute l'année dernière parce qu'ils ont découvert en décembre cette figure. Et puis, ils ont présenté ensuite leur travail au concours La Résistance et il a été parmi les primés. Et tout au long de l'année, il y a eu une conférence donc dans le lycée de Gaëtan Blosse et de l'association Les Chemins de la Liberté qui est venue présenter l'enjeu des passages en Comminges. Il y a eu leur travail qui portait sur une carte, en fait, une carte des lieux de résistance de Gabriel Gess, hein, de son lieu de naissance à sa mort. Et puis après, avec cette restitution du 27 mai en préfecture qui les avait vraiment beaucoup impressionnés, là, c'est vrai que la cérémonie, ça les avait vraiment marqués dans les ors de la préfecture de Toulouse. Ils ont enchaîné ensuite avec un été de commémoration puisqu'ils ont assisté à Marsoulas aux 80 ans, à la libération de Saint-Gaudens aux 80 ans. Et bon, je suis, c'est vrai que je suis vraiment témoin de la transformation de ces jeunes sur le plan mémoriel. Ils ont été complètement marqués par cela. Et c'était très touchant. Et donc, j'en profite pour vous remercier, hein, vraiment, parce que entre musée et l'ONAC. Alors, c'est vrai que ça demande un tout petit peu de temps, mais vraiment très peu, parce que l'ONAC vraiment fait tout pour faciliter ce type d'opération, hein, s'il y a des collègues. Et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Donc cette année à Blagnac, pour le coup, je ne sais pas si on en parle après, mais oui, j'en dis un mot maintenant, mais j'ai vraiment eu, à mon avis, un moment rare en termes de qualité, d'intensité, on pourrait dire, de rencontre avec Olivier Bertrand, qui est l'auteur du livre « Les imprudents », qui est un livre sur le maquis de Bir Hakeim, sur lequel il a enquêté. Et là aussi, de voir, alors c'était toute une classe à la fois, c'était 40 élèves, mais voir 40 élèves de terminale avec cet enjeu qui est l'enjeu de cette génération qui n'a pas connu, même des gens qui ont connu, et donc qui ne connaît pas grand-chose à cela, mais qui est vraiment intéressé avec, on pourrait dire, un regard un peu lessivé en termes de surface. Il n'y a pas vraiment de représentation de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment impressionnant de les voir happés par, ici, des témoins de témoins. Et de se poser un certain nombre de questions et d'en poser, c'est très très marquant en termes de rencontres. Donc voilà ce que on a un peu vécu et qui était vraiment, à mon avis, très porteur pour ces jeunes. Voilà. Merci.
Et on ne l'a même pas soudoyé, je vous jure.
Même audio, une mémoire sonore.
Chaque année, le conseil départemental emmène en voyage les lauréats du CNRD. Et là, on avait l'une des élèves qui avait travaillé sur Gabriel Jess. Et donc, on les a emmenés dans les pas des enfants juifs allemands réfugiés à Serres et au château de La Haye. Et on a voulu leur faire découvrir, parce que ces enfants, pour partie, se sont évadés par les Pyrénées ou par la Suisse. Et à Marignac, il y a la stèle des évadés qui a été... je vous invite, hein, si vous allez du côté du Comminges, allez à Marignac. L'ONAC a mis en place un parcours. Donc on a demandé à Sonia de nous accompagner sur ce parcours qui est ponctué, c'est 3 ou 4 kilomètres. Enfin, je te laisse...
Oui, merci. Alors, ce parcours que vous voyez, hein, qui se déploie dans la forêt, est un parcours facile qu'on a voulu accessible au PMR, sachez-le, dont le porteur de projet est la communauté de communes des Pyrénées aux Garonnaises, qui nous a sollicité, à l'époque la sous-préfète, parce que l'objectif, c'était de créer vraiment un chemin de mémoire transfrontalier. Le but, c'était d'arriver jusqu'en Espagne. Et c'est toujours l'enjeu, d'ailleurs, en ce moment. On continue à travailler dessus. Mais, voilà, pour amorcer un petit peu les choses, on a commencé par créer une boucle pédagogique. Cette boucle pédagogique, alors vous l'avez compris, hein, nous, on va toujours partir du terrain. Elle s'est appuyée sur le témoignage d'un évadé qui est passé en octobre 1943 et qui était encore vivant au moment où on a créé ce chemin. Cet évadé s'appelait Paul Mifsud, et il était parfaitement en capacité, il a failli mourir, hein, quand même sur le chemin, je spoil, il était parfaitement en capacité de nous dire: je suis passé par ici. Alors il y avait parfois des petits blancs, parce que quand il est passé, le brouillard et la neige sont tombés, mais en tout cas on savait à peu près retracer le cheminement jusqu'en Espagne. Donc, pour tout vous dire, avec mon directeur de l'époque, nous avons chaussé les crampons, guide de haute montagne, voilà, sac à dos, j'adore mon métier, vraiment. Et on est parti 3 jours pour explorer vraiment ces chemins. Alors, quand je vous dis chemin, hein, c'est fougère jusqu'à la taille, ronce, patin couffin. Je suis excellente marcheuse, j'ai cru que j'allais mourir, je vous le dis. C'était vraiment excessivement compliqué. Ça permet aussi, quand on souffre, de se dire « Oh la vache, pardon pour l'expression, mais comment ont-ils fait ?» Sachez qu'il y avait une enfant aussi qui était dans la caravane qui est passée en 7 octobre 1943. Là, on s'est dit « Il faut qu'on raconte l'histoire, il faut qu'on amène les jeunes à voir cette histoire. » Et donc, on a déployé des panneaux sur 2,6 à peu près kilomètres Le but étant de faire vraiment une boucle pour qu'ils puissent revenir au point de départ. Et chaque année, nous animons des randonnées mémoriales avec ces jeunes qu'on essaie de mettre un petit peu en musique, si vous voulez, c'est le cas de le dire. On se fait accompagner d'une chanteuse lyrique qui ponctue le chemin de chant de la résistance. Je peux vous assurer que ça galvanise les foules. Et puis, parfois, on fait intervenir également des comédiens ou des reconstituteurs qui déboulent de la forêt comme des résistants de l'époque. Et voilà, on a les élèves qui font des bonds en arrière, mais je peux vous assurer que ça a un succès monstrueux. Et on termine toujours par une commémoration en l'hommage de ces résistants qui sont passés sur cette nuit d'octobre 1943, et notamment de Paul qui s'est éteint il y a 2 ans maintenant, pour qui j'avais beaucoup d'affection. Donc c'est une boucle mémorielle à laquelle je tiens particulièrement et que je vous invite à aller voir.
Alors, tout ce travail-là, c'est aussi pour que les enfants et leurs parents participent un peu aux cérémonies, parce que Sonia, comme moi, et d'autres personnes dans la salle, savent que lors des cérémonies commémoratives, à part les officiels, il n'y a pas grand monde. Et donc ce travail-là, ça permet... là, les deux photos, à gauche, c'est Brax, et là, vous voyez que... c'est Saint-Lys. Et les enfants qu'on a été voir à Séguet sont venus, ainsi que ceux de Bon Repos sur Ossonel. Et à droite, c'est Brax, parce que la mairie de Brax a pour projet de racheter le... Enfin, racheter, d'ailleurs. De transférer sa mairie dans le château de Brax. Et donc là, on a fait tout un parcours avec les élèves de CM2 avant qu'ils viennent participer à la cérémonie. Donc c'est pas prendre un public captif et leur dire, comme tu disais, les asperges, voilà.
Les
c'est vraiment
de Pâques.
Voilà, qu'ils aient vraiment conscience de ce qu'ils commémorent et pourquoi ils commémorent et comment ils commémorent, quoi. Après, une expérience...
Alors, est-ce que tout le monde connaît le maquis de Saint-Lys? Non. Alors là, petit point peut-être, Erika, très rapide.
Alors, très rapide. Ouais, le maquis de Saint-Lys, on est 2 jours après les crimes commis à Marsoulas. La division d'Asraïch donc va dans les Hautes-Pyrénées et revient par le Gers. Là, elle est informée qu'un maquis s'est installé récemment dans le domaine de Gagin, à Bonrepos-sur-Ossonel. Il porte improprement le nom de maquis de Saint-Lys. Il n'était pas à Saint-Lys. Et donc... Les maquisards qui s'étaient réunis après l'appel à l'insurrection du 6 juin avaient commencé à déménager, mais certains résistants, parce que c'est des résistants qui étaient engagés depuis 40-41, je pense à Jean Chaubet, vont se faire surprendre par la division d'Asreich et se faire massacrer. Ils n'ont pas d'armes, ils sont surpris. Et donc ce maquis n'a vécu que 4 jours. Et sur les lieux du maquis se trouvent des stèles qui rendent hommage aux 9 résistants qui ont trouvé la mort à Saint-Lys. Et donc il n'y avait jamais eu de parcours mémoriel dans le bois défriché.
Non, parce que pour la simple et bonne raison qu'en fait la plupart de ces stèles sont sur des propriétés privées. Alors la mairie se bat, et là il y a un vrai enjeu de patrimonialisation, pour que ces stèles demeurent accessibles au grand public. Et effectivement, pour nous, inscrire la création d'un parcours mémoriel qui a demandé beaucoup d'investissement à la mairie, hein, c'est eux qui ont défriché la forêt pour qu'on puisse passer, avec l'accord des propriétaires évidemment, mais voilà. Avec l'association également, hein, des amis du maquis de Saint-Lys, et notamment Jean ici présent, Jean Micou, qui portait avec nous ce projet, nous avons pu recréer une boucle mémorielle en allant sur quasiment, je dis quasiment parce qu'une stèle est très très éloignée et très difficilement accessible, mais sur quasiment tous les lieux où les maquisards sont tombés, ils se sont éparpillés, puis ils ont été fauchés. Voilà. Et on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, parce que c'était ouvert au grand public, parce que c'était tard en soirée, hein, on est parti à 18h je crois. On a eu énormément de monde. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur ce maquis et donc qu'il était aussi nécessaire de, vous vous souvenez, hein, s'appuyer sur les archives, etc. Donc, on a eu des séquences assez émouvantes parce qu'on se faisait accompagner notamment par la chanteuse lyrique Jenny Béroc, que vous avez un petit peu plus haut, Et Erika a fait une petite vidéo prise sur le vif.
Ouais, excusez-moi, c'est avec mon téléphone que j'ai fait ça, mais c'est pour vous faire partager. C'était très émouvant. Elle a ponctué. Tu lui avais demandé beaucoup de chants. On avait notamment un chant républicain espagnol hein, qui était parce qu'il y avait des républicains. C'était un maquis en fait qui était composé de toutes les composantes de la résistance. Et dont les républicains espagnols. Mais là, elle évoque devant trois des stèles, dont celle du chef du maquis. Elle chante la complainte du partisan.
Vous qui le savez, effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore, nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra. On nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre.
Voilà, mais c'était très émouvant dans la forêt.
Et les enfants ont fleuri, ont cueilli des fleurs sauvages et ont fleuri la dernière stèle. Donc, un très, très beau moment que j'espère qu'on pourra réitérer cette année, et peut-être en créer.
On va vous passer un autre extrait. C'était la dernière expérience qu'on a fait la semaine dernière avec Emery, avec le lycée Saint-Exupéry de Blagnac. Après la rencontre avec Olivier Bertrand, donc on est allé dans les pas de ces jeunes maquisards du maquis Berakem, c'est un maquis très précoce de 1943, où se sont trouvés des élèves du lycée de garçons, le lycée Pierre de Fermat. Et quatre d'entre eux ont été condamnés à mort par le tribunal militaire allemand. Et donc nous sommes allés à la prison Saint-Michel et puis à Bordelongue. Et c'était très, très émouvant parce que il y a une cérémonie chaque année. Je ne sais pas si vous voyez ce monument. On l'aperçoit du périphérique quand on va vers Tarbes. Aucun élève n'était allé comme ça sur ce site qui est fermé et la mairie de Toulouse nous a permis d'y aller et avec la chanteuse, alors je cherche la vidéo.
Ils viennent jusque dans nos rois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, enviez vos bataillons, marchons, marchons, sans la plus aveugle de Sion.
Et ils chantent tous. Vous remarquerez.
Non, c'était très émouvant, sincèrement. Moi qui ai fait souvent la cérémonie en septembre, c'est pareil, on n'est pas nombreux, quoi. Et de moins en moins nombreux. Et là, y aller avec ces élèves, c'était très fort. Emery.
Je voulais y aller dernièrement, mais c'est là qu'il y a, c'est ça ce qu'on appelle la rue des martyrs de Bordelongue.
Non, il faut prendre le chemin de Cesse.
Ah, voilà.
Parce mais que... en fait, c'est fermé à clé parce que. La rocade est juste à côté.
voilà. Parce que quand vous prenez le bus 13 pour Toulouse, il y a une rue qui s'appelle la rue des Martyrs de Bordelongue. Donc, c'est pas là que se trouve la stèle, hein, voilà.
C'est au 244.
Oui, parce que, voilà pourquoi je posais la question, parce que je passe des fois avec le 13 à la rue du, cette rue des Martyrs de Bordelongue.
C'est trop dangereux parce qu'on peut marcher sur le périphérique. En fait, c'est un site qui se trouve là parce que les 27 résistants qui ont été condamnés à mort par un tribunal militaire allemand et fusillés à la prison Saint-Michel leurs corps ont été enterrés dans cette zone c'était la campagne. Et le seul témoin de cet enterrement, c'est une femme, une fermière qui s'appelait Madame Ramon, qui a noté sur son carnet à chaque fois qu'elle a vu les Allemands venir enterrer les corps. Mais c'est proche d'AZF. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a le périphérique qui coupe et le lieu n'est ouvert que autour du 7 septembre quand il y a la cérémonie. Donc c'était vraiment bien aussi que la mairie de Toulouse nous confie les clés pour.
Mais ils ont toujours été très aidants à la mairie. En tout cas avec l'UNAC, on a toujours eu de très bons. Ouais. Des très bons retours à chaque fois qu'on me demandait quelque chose. Je leur rends hommage aussi.
Alors, le 80e se poursuit, on va peut-être faire vite.
Très, très vite.
Ouais, sur 2025.
Eh oui, le combat continue, vous l'avez compris. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, on va continuer hein, nos ateliers pédagogiques, nos projets de valorisation de la mémoire de Pierre, nos cycles de conférences. On ne va peut-être pas spoiler sur le programme, si tu veux.
Le 5 février déjà, la journée du 5 février qu'on va faire ici, journée d'études en partenariat avec l'ONAC, sur la découverte des camps de concentration, avec notamment des intervenants, dont le directeur du service historique de la défense de Caen, Alain Alexandra, et puis un historien.
Il ne vient plus, Laurent Thierry ?
Si, Laurent Thierry.
Ah, Laurent Thierry vient.
Ouais, si.
Ah, bah, super.
C'est Thomas Fontaine qui vient plus.
Ah, tant pour moi.
Laurent Thierry et Jean-Michel Dozier, qui fait un travail exceptionnel pour, faute d'archives allemandes, justement, refaire l'itinéraire de ces résistants qui, par la déportation, ont été éliminés du. Enfin, les nazis ont tenté de les éliminer du combat. Donc, ça, ce sera le mercredi 5 février. On fait ça un mercredi pour que les enseignants puissent venir. L'après-midi, 14h, 17h.
Est-ce que vous avez des questions ?
Bonsoir à tous, monsieur Esteve. J'appartiens à l'Union nationale des combattants et soldats de France et je voulais signaler qu'il y a eu une très bonne initiative, la création des cadets de l'UNC qui permet, après une formation, d'assister à toutes les cérémonies commémoratives pour dans l'avenir, perpétrer la mémoire. Et souvent, ils sont porteurs de drapeaux. Alors, c'est des jeunes qui ont 15 et 16 ans. Et je peux vous dire que dans un petit village, quand vous avez un jeune qui porte le drapeau, ils sont en tenue, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et j'avais une autre question. Celle-là, ça m'insurge. J'ai lu un article de M. François Copé, qui a été président des Républicains, qui se dit gaulliste et qui préconise de supprimer le 11 novembre pour faire des économies à l'État. Alors, qui commence, lui, à se réduire ses retraites et pensions, ça ira mieux. Voilà. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Juste pour info, le 11 novembre, évidemment, on commémore l'armistice de la Première Guerre mondiale. Sachez également que c'est la commémoration de l'ensemble des morts pour la France, y compris des OPEX. Il faut savoir, quand on supprime une date, ce qu'on supprime exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ?
Puisqu'on a gentiment rendu hommage aux enseignants qui ne meurent pas tous au combat, fort heureusement. Voilà, bon, c'est aussi partie des partenariats qui sont possibles et qui permettent justement de faire vivre l'histoire. Alors, on peut ruser, parce qu'il faut ruser effectivement avec les trois trombones et les bouts de papier poubelle. Ben, je reprendrai l'expression. Hein. Mais c'est tout à fait ça. Pour le CNRD, c'est quand même un outil très, on va dire, très pratique pour faire vivre, notamment les archives, parce que bon, je pense que j'ai à peu près utilisé tout ce qui était comme ressource possible. Alors, en revanche, s'il y a toujours des associations pour donner de l'argent pour venir à Toulouse, je suis toujours ouverte aux propositions, parce que c'est effectivement ce qui a été dit. Venir à Toulouse, à minima, et Toulouse, c'est pas loin. Hein. Moi, je suis à côté, enfin à côté, l'établissement dans lequel je travaille, c'est Gragnac. Vous voyez la 69, le chantier, bah, je suis à côté. Donc, c'est 10 minutes d'un péage, c'est 200 euros la journée. 200 euros quand on tombe sur le bon transporteur. Ça peut monter des devis jusqu'à 600 euros. Enfin voilà, juste pour vous dire que dès qu'on veut faire une petite, ce qui semble être une petite sortie, plus toute le... et donc bah, 2025, bah, moi je donne de nouveau rendez-vous pour la suite, parce que j'ai le camp d'internement de Saint-Sulpice sur le feu, les fusillés du Bois de la Reule pour l'autre groupe. Donc il y a voilà, pas mal de
choses. Alors un petit tuyau. Pour les enseignants, les professeurs, c'est important. Sachez que lorsque vous déplacez vos élèves sur des lieux de mémoire, vous pouvez solliciter une enveloppe du ministère des Armées par le biais de ce qu'on appelle la CICP. Voilà, regardez sur Eduscol. La CICP, c'est des commissions qui se réunissent une fois tous les 3 mois à peu près, qui statuent et qui délivrent des aides, notamment pour les transports scolaires.
Bon, sauf que c'est pour le 7 février, mais bon, on va trouver un truc. Mais merci du tuyau.
D'autres questions? Je vous félicite d'avoir survécu à notre diatribe.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.